Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue au podcast de la rédaction de Gamma Info. Cette semaine, comme chaque semaine, nous reviendrons sur l'actualité. On commencera par les gros sous. Ensuite, on vous parlera des jeux indépendants avec, entre autres, un gros coup de gueule sur Kickstarter. Ouais, vraiment quelque chose qui viendra du fond de mon cœur, vous allez voir. Ensuite, on parlera de Borderlands 3 qui est sur les rails. On parlera également d'Assassin's Creed 3, de la censure, qu'elle soit en Chine ou aux USA, des dates. Et puis, on finira sur notre jeu du moment, Sleeping Dogs. Comment tu vas, mon cher ATH?
Ah, ça va toujours, comme d'habitude, hein. Fidèle au poste, on est là.
La pêche, bien.
Tranquille. Hein, ouais.
Bon, allez, on commence par les gros sous, comme je disais. Et on va parler de la Wii U. Alors, comme vous le savez, sans doute, ou peut-être pas, remarque, la Wii U est en rupture de stock. Et bon. Évidemment, comme toujours, ce qui se passe quand il y a une rupture de stock, ben, il y a des petits malins qui en profitent sur eBay, n'est-ce pas? Donc, ATH, est-ce que tu peux nous dire jusqu'où c'est allé cette histoire?
Des petits malins ont précommandé en fait beaucoup de Wii U pour les revendre sur eBay. Et donc, ces chiffres ont atteint la modique somme exorbitante entre 600 et 900 dollars. Voilà, c'est un peu du foutage de gueule de vendre cette console à ce prix-là, surtout pour une console qui va bientôt être...
Non, mais attends, ATH, j'ai envie de dire, si les gens sont prêts à payer pour ce prix-là, il est où le problème?
Ah ouais, franchement, il faudrait vraiment être un abruti pour payer ce prix-là.
Après tout, si les gens ne savent pas quoi faire de leur argent, je veux dire, voilà, n'est-ce
bah,
pas?
Si les gens ont d'argent à dépenser...
Ce qui est emmerdant avec ce genre de pratique, c'est qu'en général, les mecs qui revendent les consoles à ce prix-là, ce sont des mecs qui sont allés à la Fnac, qui en ont pris 4 ou 5, qui en font commerce, quoi. Enfin, c'est surtout ça qui est super chiant, parce que ça veut dire qu'il y a plein de gens qui ont fait la queue pour avoir leur Wii U, qui ont essayé d'avoir la Wii U et qui l'auront pas parce qu'il y a un connard qui en a commandé 4 ou 5, quoi. Moi, c'est ça en général qui me gonfle avec ce genre de truc. C'est les espèces de rapaces qui sont là et qui en profitent pour... qui organise limite la rupture de stock, quoi. Bon, en général, bon, on va pas se cacher, c'est aussi une volonté Nintendo, hein. À chaque fois, je veux dire, les constructeurs, on va dire que la rupture, elle est organisée. Mais disons que là, ce phénomène-là, en plus, des mecs qui arrivent et qui te commandent plusieurs consoles pour ensuite les revendre, franchement, ça devient gonflant, là. Bon, ensuite, on va parler de Capcom et de Resident Evil 6. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Resident Evil 6? Le jeu s'est pas vendu?
Non, c'est pas ça du tout. Là, pour le moment, on n'a aucun chiffre sur les ventes. Bon, on sait que le jeu a reçu un accueil assez mitigé dans la presse. Il y a eu des...
Enfin, on n'a pas de chiffre exact sur les ventes, mais on sait qu'il y a plus de 4 millions de copies qui ont été
voilà,
distribuées.
Voilà, c'est Capcom qui voit très très gros pour son blockbuster triple AAA, comme on dit. Donc ils ont distribué 4 millions 5 d'exemplaires dans le monde entier, qui donc Capcom veut vraiment voilà, ils savent que c'est une offensive qui marche. L'accueil vraiment mitigé des joueurs et de la presse, on a eu des notes exorbitantes, d'autres notes vraiment pas très terribles.
GameCult,
Gameblog même je sais pas, il y a jeuxvideo.com qui a mis une bonne note à Resident Evil 6, JVN qui a mis une moins bonne note. Enfin bref, c'est vraiment, ça va vraiment dans tous les sens.
Et sans trop vous spoiler, je pense que ATH lui mettrait sa note, mais c'est un autre débat.
Et en tout cas, c'est que, comment dire, voilà, il y a eu même, et d'ailleurs, pour revenir à ça, j'ai lu des tests faits par des amateurs. Il y en a un qui m'a fait vraiment beaucoup rigoler. Il a dit que j'ai vu les crédits de fin du jeu. 600 personnes à travailler dessus et pas un seul scénariste. Enfin bref, les Resident Evil n'ont pas été connus pour leur scénario très profond. Mais bon, ce qui me gêne le plus vraiment dans cette histoire, c'est que pour les possesseurs de PlayStation 3 et particulièrement ceux qui achètent leur version sur le PSN. Sachez que si vous achetez Resident Evil sur le PSN, qu'il y a un certain bug qui est fait avec la mise à jour. En fait, il y a un patch qui se lance et qui vous permet tout simplement de ne pas pouvoir jouer à Resident Evil 6 du tout. Donc Capcom recommande donc de désinstaller le jeu avec l'article patch et de le réinstaller sans installer la mise à jour, ce qui vous bloquera l'accès à ResidentEvil.net, le truc, le réseau social un peu de Resident Evil comme a fait Call of Duty Elite, etc. quoi.
Attends, mais en plus, tu vois, le La version PSN du jeu, enfin, ils savent combien de temps il faut pour le télécharger, les putains de jeux sur PSN? Ça prend trois plombes, c'est... Merci Capcom, quoi, super!
Déjà que j'avais, moi j'avais téléchargé le Resident Evil 4 HD, et ainsi que le Code Veronica HD sur le PSN. Ah ouais, putain, ça a mis une plombe, je crois, je l'ai téléchargé un samedi, je voulais vraiment y jouer ce jour-là, et j'ai dû jouer le lundi ou le mardi, quoi. Tellement ça met du temps, quoi. Alors que là, c'était un petit jeu PS2, tout ça, quoi. Donc c'est pas le même gigot. Donc là, pour Resident Evil 6, tu dois, je sais pas, tu dois jouer l'année prochaine, peut-être.
Ouais, voilà. Bon, sinon, sans surprise, FIFA 13 fait péter les scores, hein,
alors,
n'est-ce pas?
FIFA 13, bon, bah, Electronic Arts, met une grosse branlée à Konami et son concurrent PES Direct. FIFA 13, en 5 jours de commercialisation, c'est vendu à 4,5 millions d'exemplaires, donc autant d'exemplaires que voudrait faire Capcom avec Resident Evil 6. ce qui est le plus gros démarrage de l'année, en 2012 en termes de jeux vidéo, et le plus gros démarrage d'un jeu de sport, toutes catégories confondues, voilà, c'est le plus gros lancement d'un jeu vidéo de football, de sport, voilà, qu'on a connu. Et d'ailleurs, c'est un très très bon jeu de football pour ceux qui s'intéressent à que ceux qui s'intéressent. Moi, j'y joue à cette version de FIFA 13 et vraiment pas mal de petites nouveautés par rapport à l'édition précédente. C'est pas une.
Faudra que tu nous fasses on fera un test prochain, n'est-ce
bah,
pas?
Franchement, faire un test sur un jeu de foot, c'est pas voilà quoi. C'est pas vraiment. Il y a pas vraiment grand chose à dire. Ça mériterait pas un test en podcast à moins qu'on soit vraiment en déche.
Ouais, d'accord. Bon, sinon, 4 millions de PS3 en France, ben, ma foi, la PS3 confirme la force de la marque Sony dans mon contrée, n'est-ce pas?
4 millions de PS3 en France, ce qui est un peu de 2 millions inférieur à la Wii, qui est toujours vendue qui a été vendue à 6 millions d'unités.
Ouais, mais tu me diras quand même, quand on sait que la Wii, c'est quand même la console de la génération, quoi, c'est pas mal, hein.
Bah, c'est sûr, et surtout que la Xbox est un peu derrière la PS3 en France avec 3 millions de ventes. Donc voilà, quoi.
C'est déjà pas si mal.
Franchement, non, c'est...
Ouais, franchement...
Pour les trois consoles, les trois concurrents sont bien sortis. Il n'y en a pas un qui a vraiment bouffé l'autre, comme on a pu voir à certaines époques.
Bah, en tout cas, le marché se porte bien, apparemment. Voilà. Ensuite, Minecraft sur Xbox 360. Alors, j'imagine que comme sur PC, ça a dû bien marcher.
Bah oui, bah comme la PS3, 4 millions de Minecraft dans le monde entier sur la version Xbox 360, bien entendu. C'est-à-dire, alors si on cumule les versions Android et PC, ça doit notre ami Notch doit être très très content et très très blindé.
Oui, il a dépassé les 10 millions, je pense. Mais... Bravo, hein, ouais, piscine en or, tout ça. Bon, allez, on va passer maintenant aux indépendants. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, je vais commencer par un coup de gueule sur Kickstarter. Là, il y a un truc qui m'a gonflé cette semaine. C'est un nouveau projet de jeu de rôle qui a été lancé par un studio totalement inconnu. Et le truc, bon, déjà, moi, il y a un truc qui m'a énormément gêné au départ avec ce projet, c'est que l'intitulé du projet, et vous allez voir que ça résume tout le problème, c'est Old School RPG, point. L'univers du jeu, on le connaît pas, le système du jeu, on le connaît pas. En fait, on ne sait rien, pratiquement rien sur ce projet, si ce n'est que c'est un jeu de rôle old school. Donc, je sais que ces derniers temps, la mode sur Kickstarter, c'est que y a un peu une mode rétro, etc. Tu vois. Je comprends que les gens aient envie de retrouver quelque chose d'un peu de rétro, mais là, je trouve que ça commence à aller un peu loin, et ça va d'autant plus loin que, à mon sens, pour te permettre sur Kickstarter de proposer un projet comme ça, où grosso modo les gens n'ont rien à montrer, même pas prototype du jeu ni rien, il faut quand même avoir des types qui ont un CV en béton armé, quoi. Genre Obsidian qui arrivait dans les mains dans les poches, tu vois. Ok, ils avaient rien à montrer, mais tu vois, ils ont tellement une fab base énorme qui leur fait aveuglément confiance qu'ils peuvent se le permettre. Et encore, même là, je trouve ça limite, hein, qu'on soit honnête. Je leur ai donné, mais je trouve ça quand même un peu limite.
Bah, moi aussi, tout à fait limite, parce que, enfin, je sais pas, toi, c'est pour... Quand tu vas sur... Il faut au moment que tu montres un petit truc qui donne... de voir dans quoi le mec, il va investir son argent, parce que c'est bien beau d'arriver, même si t'es Obsidian ou n'importe qui, il faut quand même que un minimum quoi, il y a un minimum à respecter franchement.
Mais là donc non seulement donc ils ont rien à montrer, mais en plus bon, c'est pas des inconnus, hein, qu'on s'éclaire. Mais c'est des gens non plus qui ont pas un CV si extraordinaire. Moi déjà ce qui me gêne dans le CV donc des deux principales personnes derrière le projet, à savoir Tom Hall et Brenda Braithwaite, c'est que Tom Hall, effectivement, il est connu dans le jeu vidéo, mais il est surtout connu pour faire des FPS. Il a notamment travaillé sur Duke Nukem 3D, Doom 2, Wolfenstein 3D. Enfin bref, c'est quelqu'un qui est surtout connu pour faire des FPS. Donc vous m'excuserez, des jeux de rôle, a priori, c'est pas son rayon. Il en a juste fait un, Anachronox, et je peux vous dire que c'est pas non plus un chef-d'œuvre, loin de là. Ensuite, il y a un autre qui m'a gêné. Donc Brenda Braithwaite, elle est surtout connue pour avoir bossé sur la série des Wizard Eye, une excellente série de jeux de rôle old school très connue. Sauf que moi, ce qui me gêne dans le pitch de la vidéo, c'est que en voyant la vidéo, t'as l'impression que ah ouais, c'est l'une des têtes pensantes de Wizard Eye. Ça fait, elle travaille depuis le début sur la série. Attends, Mini Papillon là, Brenda Braithwaite, elle a juste occupé un poste clé. Effectivement sur Wizard Eye 8 où elle s'occupait du game design, mais tous les autres jeux, elle a juste fait du playtest et de l'écriture de guide. Alors s'il vous plaît, moi il y a un truc qui m'exaspère profondément là-dedans, c'est en plus on voit les faits sur Internet, on voit des topics où il y a marqué par les créateurs de Wizard Eye, tu vois. Stop, à 1 minute là, elle a rien créé sur Wizard Eye, hein. Je veux dire, elle a eu un poste clé sur un des jeux, le reste elle a fait du playtest quoi. Je suis désolé, faire du playtest, c'est pas non plus, c'est important dans un jeu, on est d'accord. Enfin, c'est important qu'il y ait des gens pour tester les jeux, mais c'est pas un poste clé quoi. C'est un poste en bas de l'échelle quoi, faut arrêter. Donc ça tu vois là mon sang n'a fait qu'un tour. Et bon, bref, vous aurez compris, moi là. Je gueule et je gueule d'autant plus que à côté de ça, il y a des projets originaux comme Black Space qui va probablement échouer son Kickstarter qui a 113 000 dollars, qui demande 350 000 dollars, qui a un prototype à montrer, qui a des choses à montrer, qui est nouveau, qui a des choses innovantes à montrer, et il galère comme un fou à réunir les sommes pour réussir le Kickstarter, ils n'y arrivent pas. Et là, moi, qu'est-ce que je vois? Je vois cette espèce de machin où il n'y a rien à montrer, là, c'est 192 000 dollars. Ils ont déjà 192 000 dollars, ils ont plus que Black Space, alors que Black Space, ça fait pratiquement 20 jours qu'ils font leur Kickstarter.
Et là, ils en demandent combien, eux, pour
Demande 1 million, tu vois.
1
C'est
million?
non complexe, hein. 1 million, ils ont rien à montrer, 1 million. Alors, bon. Alors, peut-être que, bon, j'en fais un peu trop, mais moi, quand je vois ça, tu vois, ça m'énerve, quoi. Mon sang ne fait qu'un tour parce que je vois des mecs comme Black Space, qui ont des choses à montrer, et y en a pas un pour leur filer des sous, tout ça parce qu'ils ont pas un CV en béton armé, alors que pourtant ils ont un truc solide à montrer, hein. Moi je vous dis, allez voir les vidéos de Black Space, ils ont des choses solides. Et là, ces mecs-là, ils arrivent, ils demandent 1 million, tranquille, ils sont déjà à 192 000. Alors peut-être qu'ils arriveront pas au bout, parce que pour le coup, ça a soulevé certaines polémiques sur Internet. Je vous renvoie notamment à un article très intéressant de Rob Paper Shotgun, site anglais très connu, vraiment très bon, ou qui parle en substance. Pour vous résumer l'article, l'auteur dit on croyait au début de Kickstarter que ça allait être une source d'innovation pour les développeurs, vu que ils peuvent enfin se libérer des contraintes des éditeurs. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben des projets qui jouent énormément sur la nostalgie quoi. Alors no, la nostalgie ça va bien, mais à un moment faut passer à autre chose quoi. Bon, d'un côté moi par rapport à l'article de Rupert Shotgun, il y a deux trois points où je suis pas d'accord. Par exemple dans les projets qui jouent sur la nostalgie, il citait un projet qui s'est terminé récemment, Planetary Annihilation, qui bon en gros le projet se vendait comme successeur spirituel de Total Annihilation. Sauf que là où je suis pas trop d'accord, c'est que par Planetary Annihilation, par exemple, alors certes, il jouait sur la nostalgie par rapport à ce jeu de stratégie culte de la fin des années 90, on est d'accord, mais quand même, Planetary Annihilation, pourquoi le projet a dépassé les 2 millions de dollars? Parce que la principale feature du jeu, c'était de pouvoir exploser des planètes. Et ça, dans un jeu de stratégie, c'est jamais vu, c'était du jamais vu. Et même le reste de la campagne, ils ont proposé plein de features innovantes. Donc là, À ce niveau-là, je suis pas trop d'accord avec Ropeye pour Shotgun. Et aussi, je pense qu'avec la nostalgie, enfin, avec des jeux basés sur des concepts anciens, il y a moyen de faire des choses nouvelles. On a vu notamment ça avec Arkido, qui s'est très bien revisité des anciens concepts, etc. Donc, bref, pour en finir là-dessus, et je te laisserai un peu en placer une, ATH, ce old school RPG-là, ils auront pas un copec de ma part. Et bon, sans souhaiter qu'ils se plantent, parce que je suis pas mesquin à ce point-là, je trouve ça quand même très décevant de voir que un projet comme ça où il y a rien, ben ça se vend mieux qu'un projet qui a plein de choses à montrer et qui est vachement bien ficelé. Voilà.
Donc moi, ce que je vais dire, c'est on passe à la suite parce que voilà. T'as fait une assez longue tirade et je pense que nos auditeurs ont compris ton coup de gueule.
Voilà. Un coup de gueule qui vient du cœur. Ensuite, bah, on va vous reparler d'un projet de Kickstarter. C'est The Banner Saga, un projet que j'affectionne beaucoup. Alors, on a eu des news de l'équipe de développement. Alors, il faut savoir que la sortie de The Banner Saga devait se passer en deux temps, parce qu'il y avait le multi et le solo. Et donc, on sait maintenant que le multi arrivera le mois prochain. Donc préparez-vous, le multijoueur de The Banner Saga, c'est le mois prochain, et le solo arrivera l'année prochaine. Et pour ceux qui ont contribué à la campagne Kickstarter, sachez que vous avez accès à la bêta du multijoueur dès ce mois-ci, et qu'entre autres, ceux qui ont donné une certaine somme d'argent pendant le Kickstarter, vous savez que normalement, vous pouviez uploader vos propres symboles de clan. Et ça, vous pourrez le faire pendant la bêta. Donc, si vous n'avez pas suivi les news, allez-y, inscrivez-vous sur les forums de The Banner Saga, en prenant bien soin d'utiliser le même mail que vous avez sur votre compte Kickstarter, ainsi que le même pseudonyme que sur votre compte Kickstarter. Comme ça, vous aurez accès au forum privé des contributeurs de la campagne, et vous aurez accès à la bêta. Maintenant, on va vous parler d'un jeu qui nous a fait flasher, je crois, TH, toi et moi.
Ouais, franchement, vraiment, vraiment pas mal ce petit jeu.
Et franchement, il a une bonne bouille. Ça s'appelle Mac. Alors attention, pas comme les ordinateurs d'abord, avec un K à la fin, pincé.
C'est pas comme Mac, et... le film.
Voilà, c'est... Non, c'est pas Mac. Et en fait, alors, c'est assez complexe à expliquer comme concept, mais en gros... C'est une espèce de mix entre Minecraft et Mario Galaxy.
Et aussi Little Big Planet pour le design un peu.
Ouais, c'est un design assez enfantin, assez sympa. Et en fait, l'idée c'est que, bon, c'est un sandbox où vous allez pouvoir jouer avec la physique en fait. Alors, pour vous présenter un peu le concept, donc vous avez par exemple plusieurs cubes avec des propriétés particulières. Par exemple, il y a des cubes qui flottent, il y a des cubes qui agissent comme des lance-roquettes, il y a des cubes qui servent à véhiculer l'électricité, etc. Bref, il y a plusieurs types de cubes, mais en fait, l'idée, donc, c'est que, comme dans Mario Galaxy, vous allez pouvoir voyager de planète en planète, vous allez affronter des ennemis, etc. Et en plus, vous allez pouvoir, un peu comme dans Minecraft, jouer avec ces cubes. Et je sais pas s'il y en a qui connaissent la redstone dans Minecraft, mais ça fonctionne un peu comme ça. C'est-à-dire que avec ces cubes, vous allez pouvoir créer des mécanismes un peu complexes. Et par exemple, imaginons, si vous voulez faire un dirigeable, mettons, bah vous allez relier des cubes solides entre eux. Vous allez utiliser des espèces de câbles pour les relier à des cubes en forme de ballon. Et en donnant un petit coup de jus dans la structure, les cubes vont s'envoler, quoi. Ça va alimenter l'énergie des cubes et ça va s'envoler. Et en fait, l'idée, c'est que vous allez pouvoir utiliser ça pour faire du gameplay émergent, quoi. Vous allez pouvoir inventer plein de types de choses, etc., quoi. Exactement comme dans Hearthstone avec Minecraft, où les mecs font des mécanismes de malade, genre un système de comment dire, un système de porte basique où tu appuies sur un levier, ça va ouvrir une porte, ou un système pour faire sauter un bâtiment, etc. Donc, franchement, ça a l'air vachement sympa. Je vous incite à aller voir des vidéos du jeu. Le concept a l'air vachement cool.
Et en plus de ça, le jeu a une physique, ce que Resident Evil 6 n'a pas.
Oh mon dieu, la TH. Il est parti, ça y est. Mais bref, en tout cas, nous, il nous avait vraiment de l'œil. Le jeu a vraiment une bonne bouille. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, ATH, mais techniquement, c'est pas dégueulasse non plus, quoi.
Franchement, pour un jeu indépendant comme ça, c'est un jeu indépendant dans le haut du panier en termes de qualité visuelle et plus de toutes les possibilités qu'on peut faire en termes de physique. Et je pense qu'il y a moyen de s'amuser en termes de création, etc., de partager ça sur ces petits délires sur le net qu'on a pu avoir avec tous les jeux comme ça, comme les Minecraft, ou même tu sais, des jeux un peu open world avec les GTA, les jeux de course, les mecs qui font des trucs totalement délirants, tout ça, c'est vraiment. Tu vois, des fois, je pense qu'il y a moyen de faire un bon truc si ça marche.
Ok. Donc ensuite, je vais vous parler un peu de The War Z. Alors The War Z, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros c'est le concurrent de DayZ. Le Z dans les deux titres, c'est assez suspicieux, on va dire, n'est-ce pas? Donc on a eu des nouvelles de The War Z récemment, et donc on a eu des nouvelles de l'alpha. Alors, ils ont choisi un modèle payant à la Minecraft, c'est-à-dire qu'en payant une certaine somme, vous allez pouvoir accéder à l'alpha et à la bêta aussi. Alors, il y a trois offres en fait. Premièrement, vous avez l'offre Survivor à 19,49$. Faites gaffe hein, parce que plus tard, ça sera à 29,99$. Hein. Pour le moment, les prix sont un peu comme dans Minecraft et d'autres jeux qui utilisent ce modèle-là. Les prix sont réduits, mais ça va augmenter au fur et à mesure, en fait. Donc, pour le moment, c'est l'offre Survivor. Donc, elle est à 19,49$, et ensuite, elle sera à 29,99$. Alors, cette offre-là, c'est juste, basiquement, le jeu et un accès à la bêta le 31 octobre. Ensuite, vous avez l'offre Pionnière à 29,99$. Notre personnel, moi, j'en ai marre des trucs où on te met des virgules 99 pour pas te mettre un chiffre rond. Ça m'agace toujours.
Non mais ça c'est psychologique ça.
Mais ouais. Ça, non mais on sait tous que c'est 30$, quoi. C'est bon. Ensuite, au lieu de 49,99$, ça commence à être cher, moi je trouve. Avec cette offre-là, vous aurez accès à l'alpha dès le 15 octobre. En jeu, il faut savoir qu'il y a de la monnaie utilisable et vous aurez 15$. Vous aurez trois clés en plus pour inviter vos potes, pour l'essayer un week-end, et vous aurez aussi un mois d'hébergement offert parce que les serveurs privés sont gérés par la société en fait. Ensuite et enfin, l'offre Legend. Alors l'offre Legend, elle a 49,99$ au lieu de 69,99$. Putain, c'est cher. Et donc, vous aurez accès à l'alpha dès le 15 octobre également. $30 utilisables en jeu. Vous aurez accès, à un titre spécial dans le jeu avec vos noms en surveillance. Super. Également, non mais franchement, c'est risible quoi. Vous aurez trois clés d'accès pour vos potes. 6 mois d'hébergement pour le serveur privé. Sachant que les prix soldés là c'est jusqu'au 20 octobre. Hein, après ça sera les prix
Oh putain.
plein pot. Donc moi j'ai une chose à dire. Je trouve ça horriblement cher. Non mais vraiment. Hein, surtout pour un jeu. Je le disais déjà la semaine dernière pour Prison Architect. Prison Architect, je disais que je trouvais ça cher. Et alors là The War Z. Les 69 $, 99, les mecs ils se touchent plus là, ils sont plus. Bon, effectivement, c'est vrai que t'as la gestion des serveurs, mais attends les mecs là, faut se calmer là. Le jeu, on le connaît pas. On parle de tester une alpha et une bêta. À un moment, va falloir se calmer quoi. Enfin, moi je trouve ça horriblement cher. Bon, je sais que gérer un serveur ça a un coût, mais là,
Pas content.
voilà. Bon, allez, c'est tout pour les indépendants. Maintenant, on va parler d'un autre FPS, c'est Borderlands 3. Et je crois que, bah, enfin, voilà quoi. Déjà Borderlands 3, on a eu des précisions à
Bah, on
TH
sait juste que
ou...
Borderlands 3 déjà est déjà en chantier pour sortir, on ne sait pas quand. Enfin, le 2 vient juste à peine de sortir, on avance déjà un troisième épisode. C'est très bien en soi. Mais voilà, en fait, comme mon coup de gueule d'habituel, quoi, c'est que j'en ai un petit peu marre de, même si les jeux sont bons, hein, ils ont d'excellentes critiques et tout ça, qui soient assez bons, c'est d'avoir voilà, une usure de licence jusqu'à la moelle. On nous propose maintenant des suites, des suites, des suites, des suites. Bon, bah c'est peut-être que c'est bien, quoi. Moi, franchement, Borderlands 2, voilà, le jeu, j'ai toujours pas joué au Borderlands 2, mais je vais le faire bientôt. On nous annonce déjà un troisième épisode. Voilà, c'est franchement
Au moins ils annoncent le 3 quand ils ont fini le 2, hein. Il y en a qui annoncent le 3 avant d'avoir fini le 2, hein. Donc
ouais, mais Gearbox Software, ils sont quand même un peu plus intelligents que ça, quoi. Ils savent qu'ils sont annoncés à l'avance, alors que le jeu n'est pas encore sorti, les gens commencent à gueuler, mais bon, ils gueulent, mais pour rien, parce qu'après ils les achètent quand même. Donc dans ce cas-là, arrêtez de crier, parce que l'acte et la parole, il faut faire la part des choses. Mais enfin voilà, mais en tout cas, on sait, pour les fans de la série, vous aurez un troisième épisode sûr et certain qui sortira, on ne sait pas quand, mais il est déjà en préparation. Et si vous êtes un féru de FPS hack and slash dans un design dessin animé, bah vous pouvez être que réjoui et torcher le 2, en sachant que pour Borderlands 2, vous avez déjà une pléthore de DLC annoncée quand même. Hein.
Bon allez, on va passer à Assassin's Creed 3, Season Pass et DLC au programme.
Donc voilà, Season Pass et DLC au programme. Donc le Season Pass qui sera vendu 29,99 €, mon cher tyran, donc toi qui n'aimes pas les chiffres à virgule. Donc ce
Ouais.
ticket donnera droit à 5 contenus supplémentaires d'ores et déjà programmés bien sûr par Ubisoft durant les 6 mois après la sortie du jeu. Donc le Season Pass est actuellement en précommande sur le PlayStation Store et sur le Xbox Live Arcade.
Attends, qu'on s'en vienne clair là. En fait, tu payes pour avoir des réductions sur les DLC.
Voilà, donc
D'accord.
non mais tu auras, en fait le truc c'est qu'il te donnera l'accès à tous les DLC qui vont sortir dans les 6 mois après la sortie de Assassin's Creed 3, mais que tu les payeras moins cher que si tu les prends comme ça, en directement tu payes les 29,99 €, tu les auras moins cher, à peu près d'une dizaine d'euros, je sais pas combien, que si tu les prends un par un. Tu vois, si tu les prends un par un, ça te fera je sais pas, on va dire par exemple 50 €.
Ouais. Non mais,
Donc voilà, en fait ils veulent gagner de l'argent plus rapidement possible,
non mais,
quoi.
si tu veux, ce qui m'inquiète là, c'est que s'ils font ça veut dire que les DLC va y en avoir, mais un gros paquet quoi. C'est
Ah bah 6 mois après la sortie du jeu, ça veut dire qu'ils ont déjà là ils en ont il y a déjà à Season Pass, là tu auras le droit à 5 contenus supplémentaires. Donc ça veut dire que
Wow.
voilà, déjà 5 contenus supplémentaires pour un jeu, ça fait beaucoup. Mais moi en tout cas, moi ce qui m'intéresse dans le Season Pass, tout ça, voilà, je suis tout à fait contre les DLC, voilà, tout à fait contre. Mais par contre, l'idée qui me plaît bien dedans, c'est que les DLC, par exemple, on sait qu'on aura le droit à la tyrannie du roi à Washington. Donc c'est une nouvelle campagne solo livrée sous une forme d'épisode. Donc la tyrannie du roi Washington cadre avec l'intention du Ubisoft de donner un peu plus de liberté historique dans la série de base.
Donc,
En fait, il
en
s'agit là.
gros, c'est ils veulent s'éclater, enfin faire des trucs un peu barrés, quoi.
Voilà, en fait, ils veulent faire une réalité alternative et donc indépendante du scénario de base. Moi, je trouve ça bien parce que de faire un DLC qui propose quelque chose de différent par rapport au jeu de base, qui n'empiète pas sur le scénario de. C'est-à-dire que même si t'as pas envie de faire les DLC,
Mass Effect, on pense à toi.
voilà. Si t'as pas envie de faire les DLC pour connaître toute l'histoire, etc., pour connaître le sort de Desmond et de Connor, voilà, ça c'est un DLC qui proposera vraiment une autre vision du jeu.
Mais je pense que tu seras d'accord avec moi, TH, fondamentalement, c'est pas les DLC en eux-mêmes qu'on est contre. C'est comment dire? C'est c'est les DLC tels qu'ils sont faits actuellement, quoi. C'est-à-dire des trucs vachement courts, avec des contenus très courts, où finalement, t'as l'impression que c'est développé à la vite fait, vite développé, vite vendu, pas cher, pour faire plein de sous, quoi. C'est pas des trucs bien complets à la GTA, où t'as l'impression d'avoir un spin-off du jeu. Enfin, finalement, ce qui était les extensions de l'époque, tu vois. Moi, des DLC en forme de grosses extensions, qui apportent quelque chose, fondamentalement, pourquoi pas? Du moment que c'est pas un élément fondamental du scénar et que tu l'as dans l'os parce que tu l'as pas acheté. Ça, qu'on s'éclaire là-dessus, hein. Mais, les petits DLC comme ça, moi, ce qui me fait peur, par exemple, avec Ubisoft, là, c'est que, a priori, ils vont en faire beaucoup, mais quand tu sors plein de DLC comme ça, quel temps de développement est-ce qu'ils vont prendre pour les faire, ces DLC-là? Est-ce que la qualité va pas se dégrader à cause de ça, justement? Moi, c'est ça qui me fait peur. Moi, je me fais pas d'illusions, hein. Si tu sors une vingtaine de DLC, à un moment donné, la qualité, elle va forcément pâtir, quoi. Ou alors, ils ont mis 400 personnes dessus, je sais pas, mais...
Ça peut être sympa, mais j'attends vraiment d'en voir plus. Comme c'est des DLC épisodiques, est-ce que ça, sur la longueur et par rapport au prix aussi, qualité-prix, si ça vaudra vraiment le coup,
Ouais,
mais pour l'instant, je suis...
moi, franchement, je t'avoue que là, enfin, l'histoire de payer pour avoir des réductions, ça me paraît un peu... J'attendrai les soldes de Steam, hein, mais à votre place. Mais voilà, moi je dis ça,
C'est le même principe
je dis rien.
que Call of Duty et Battlefield 3 qui ont fait la même chose pour... leur DLC de pack multijoueur. En fait, c'est comme si t'achetais deux Call of Duty, t'achètes le jeu avec son multijoueur, t'as les DLC qui sortent voilà, 2 mois après, etc., etc. Et donc voilà, on va passer à un truc plus réjouissant. On va parler de la censure.
Voilà. Donc on passe à la censure maintenant. À ma droite, nous avons les États-Unis avec le dernier trailer d'Assassin's Creed 3 censuré. Et à ma gauche, nous avons les communistes avec la Chine et League of Legends qui est censuré.
Donc Assassin's Creed 3, à la fin du trailer, on voit le héros du jeu, Connor, assassiner des fantassins américains et au pays de l'oncle Sam, ils ont décidé de supprimer ces scènes, alors que dans le jeu final, on l'aura vraiment, quoi. Ces gars-là, on devra les éliminer, donc pourquoi cacher cette partie au public? Ça serait comme...
Ouais, c'est de l'autocensure, hein, en fait, on est d'accord, hein. C'est
Voilà.
pas, y a personne qui allait dire à Ubisoft, ouais, bon, s'il vous plaît, monsieur, ça va pas être possible, là,
Voilà, il est par peur que, je sais pas, que ça fasse mauvaise presse. Alors pourtant, le héros Connor, c'est un héros métis, quoi. C'est vraiment bête, quoi. Il n'a pas de parti pris pour un pays ou l'autre.
Non, mais c'est même pas ça, si, franchement, mais qu'est-ce qu'on s'en fout qu'un Américain tue un Américain, quoi, je veux dire, dans Red Dead Redemption, tu fais ça toutes les 2 minutes, ça pose de problème à personne, hein, je veux dire, hein, donc, enfin, voilà, quoi,
Ouais, mais
c'est totalement débile, quoi.
dans Red Dead Redemption, c'est qu'ils sont pas habillés en tenue de l'armée, quoi. Enfin, avec la tenue, tu sais,
Oui, bon, c'est bon, quoi, c'est un jeu vidéo, quoi, je veux dire, ça arrive aussi dans des films, enfin bref, non, mais c'est n'importe quoi. Bon, en tout cas, encore une preuve de l'immaturité du média, n'est-ce pas? Et donc, d'un autre côté, nous avons League of Legends. Alors là, qu'est-ce qui se passe?
League of Legends, donc il y a un joueur qui a mis la main sur les plus de 2500 mots qui ont été censurés. C'est un peu plus embêtant que Assassin's Creed. Donc parmi ces 2500 mots qui ont été censurés, vous avez bien sûr les insultes, mais des choses qui sont dans la version chinoise qui ont été censurées dans le LOL, c'est des expressions comme liberté ou Chine libre. Bah voilà, si vous les écrivez liberté dans le jeu en Chine, bah vous ne pourrez pas le voir dans la partie. Donc on peut pas vraiment être surpris de cela.
Bah, ils le font déjà avec Google, hein, donc pourquoi ils le
Voilà,
feraient pas
donc
avec League of Legends,
voilà,
hein?
mais on peut pas être vraiment surpris de cela parce que on sait déjà que ça existe, mais c'est vraiment assez déplorable et surtout que certains développeurs se plient aux lois chinoises. Donc d'un côté, ils sont aussi complices de cette censure qui est imposée par le gouvernement chinois et voilà.
Bon, allez, on va passer aux dates maintenant. Alors, Paper Mario 3DS le 7 décembre, c'est Morvan qui va être content, vu que... Alors, d'ailleurs, pour donner des nouvelles de notre rédacteur préféré, n'est-ce pas? Il est donc bien arrivé dans sa chambre à Londres, n'est-ce pas? Enfin, c'est à Oxford, précisément, je crois, il me semble. Et il a bien Internet. Alors, le souci, c'est que... nous ne savons pas si sa connexion est suffisamment bien pour faire des podcasts avec nous, donc on vous tiendra au courant. Mais en tout cas, il sera heureux parce que la seule console qu'il a pu embarquer pour son séjour linguistique d'un an, c'est la 3DS. Donc Promis, s'il peut faire des podcasts, on y fera parler de Paper Mario 3DS. Donc, Paper Mario 3DS, je répète, le 7
En
décembre.
même temps, ça aurait pu être pire, il aurait pu prendre une PS Vita et ne pas avoir de jeux qui sortent.
Bon, ensuite, The Infinition Swan, le 17 octobre. C'est quelle console déjà, ça? Rappelle-moi.
C'est sur le PSN.
D'accord.
C'est donc PlayStation 3 et téléchargement sur le PSN.
Bon, c'est une exclu, hein, on est d'accord.
Voilà.
Ensuite, Epic Mickey, le retour des héros sur Wii U, le 30 novembre.
Voilà, tout à fait.
Do you have steady hands at high speeds?
Where do you want to go?
I don't care, as long as we get there fast.
Ever came out that the police were involved, we're dead.
It won't. I can't come in now. I'm not finished yet.
But I have a counter offer from Mr. Lee. I'd appreciate if you relay this back to him word for word. Can you do that?
You've crossed the line, Wade.
Thanks for the ride. It was very exciting. I like exciting rides. What makes a good
man? Alors, Sleeping Dog, comment faire sympa? Alors, Sleeping Dog, c'était tout simplement mon coup de cœur de l'été. Je pense que toi aussi, d'après ce que tu m'en as dit, c'est que tu as apprécié pas mal le
Enfin,
jeu.
j'irai pas jusqu'à parler de coup de cœur, mais c'est un jeu que j'ai apprécié, ouais.
Alors, dans le jeu, nous incarnons l'inspecteur Wei Shen, qui retourne donc à Hong Kong, dans sa terre natale. Après un séjour passé à San Francisco, et donc il retourne à Hong Kong pour infiltrer les triades des Sun Oni. Le jeu s'inspire beaucoup du cinéma hongkongais, et surtout du film Infernal Affair. Donc le scénario est quand même assez classique dans les faits. Quand j'ai joué vraiment au jeu, j'avais l'impression, par rapport en termes d'histoire, de voir des choses qui ont été vues et revues. Il y a eu quelques rebondissements entre deux trois missions qui ont été faites, qui ont été plutôt sympas. Mais voilà, le scénario, c'est un truc que vous n'avez pas joué pour ça.
C'est très cliché, quoi, je trouve. C'est clairement pas pour ça que vous allez jouer, même s'il y a des personnages chapins dedans, genre la vieille dans son resto là, avec sa petite hachette là.
Mamie Chong.
Ouais, franchement, il déchire ce perso.
Ouais,
Mais
franchement.
à part ça, franchement, les ficelles sont énormes, quoi, on va dire. Hein.
Mais à part ça aussi, quand tu veux, c'est bien de parler des personnages, parce que tiens, je vais insister sur ce point-là. C'est que les personnages, je trouve qu'ils sont vraiment assez creux. Des fois, il y a des personnages qui ne servent à rien du tout. Vous les rencontrez et paf, la mission d'après, ils disparaissent. Vous ne savez plus aucune nouvelle. Vous ne savez pas ce qu'ils sont devenus.
La palme au revenant quand même, Nana, tu peux draguer dans le jeu.
Ah,
Alors, en gros, c'est
surtout elle que je...
Ouais, voilà. Au départ, tu vois, alors, moi, il y a un truc qui m'a choqué dans ce jeu, c'est, au départ, ils font un effort énorme pour introduire la première Nana du jeu, pour bien la présenter, etc. T'as l'impression que c'est un personnage qui est là pour durer, en fait.
Voilà.
Et en fait, dès que t'as fini de la narrer, dès que t'as tiré ton coup, quoi, oh, bah, c'est fini, tu la revois plus.
Plus de nouvelles.
Alors, je sais, certains vont me dire, ouais, c'est réaliste, dans la vie, ça arrive souvent, etc. Ouais, ok, non, mais on est d'accord. Sauf que là, la manière dont c'était présenté, etc., t'avais pas du tout l'impression que c'était comme ça, quoi. Et même, je veux dire, c'est, enfin, je trouve ça vachement dommage qu'ils aient pas exploité ce personnage-là, par exemple. Je sais pas, pour faire quelque chose au niveau du scénar, ça aurait pu franchement être sympa, quoi.
Le pire, c'est que le personnage, tu le vois, tu fais juste une petite mission avec, et après c'est que après t'as plus de nouvelles, mais tu comprends pas vraiment pourquoi dans le jeu, parce que même quand moi j'ai fini le jeu, enfin quand j'ai fini la mission, je me suis dit ok bon ben, là je viens de l'avoir, peut-être qu'après je vais pouvoir approfondir ce personnage tout ça, mais non, en fait tu t'aperçois que son numéro de téléphone a tout simplement disparu de son téléphone comme par
là, tu te dis franchement c'est un bâtard le personnage masculin principal du jeu, le mec hop ça y est j'ai fini, hop on efface.
Wei Sheng est un vrai salopard avec les nanas. Donc voilà, après on va parler aussi donc au gameplay. Le gameplay, donc, c'est un jeu super inspiré en termes de combat, par rapport à, il est très inspiré de Batman Arkham City et Arkham Asylum.
Ah, carrément.
C'est pratiquement le même type de combat. Si vous appuyez plusieurs fois, vous faites des combos, etc. Plus vous maintenez la pression d'une touche, plus vous mettrez un coup puissant. Le système de contre, comme dans Batman, s'il y a quelqu'un qui va venir pas derrière. Ce qui a été rajouté, par contre, est que, vous pouvez utiliser les éléments des décors qui apportent du dynamisme au combat.
Ça, j'ai envie de dire, c'est le côté un peu yakuza du jeu, c'est-à-dire que tu vas pouvoir utiliser certains éléments du décor. Ils ont clairement pompé ça sur Yakuza. Après, moi, j'aurais peut-être un petit reproche au niveau des combats. Ça manque d'accessoires, en fait, je trouve. Ça manque de barres de fer, ça manque de battes de baseball. J'aurais bien aimé avoir des accessoires en plus, quoi.
Ah, tu peux, il y a certains ennemis qui ont des couteaux, tout ça, que tu peux utiliser.
C'est assez réduit. Je veux dire, par exemple, par rapport à Yakuza, qui a un peu un système de combat assez poussé aussi. Je veux dire, tu peux pas prendre une chaise pour la casser sur le dos d'un mec. Y a pas ce genre de truc, quoi. Tu peux pas utiliser des éléments du décor, par exemple. C'est vraiment, il faut que le mec ait un couteau, que tu le prennes. Enfin bref, c'est très carré à ce niveau-là, quoi.
Mais il y a des trucs vraiment assez sympas. Par exemple, moi, la chose que je préférais faire le plus quand j'affrontais des ennemis, c'était de l'attraper, de l'amener dans une portière de voiture et lui éclater la gueule dessus, quoi. C'était vraiment assez jouissif. En plus de ça, donc moi je suis pratiquant d'un sport de combat qui est le Muay Thai. Et donc les mouvements qui sont faits par l'inspecteur Wei Sheng dans le jeu, je les trouve assez fidèles au combat on voit qu'ils ont travaillé vraiment l'animation des coups. C'est pas des coups que tu sais que le mec il va pas lancer des coups de poing un peu n'importe comment, tout ça, parce que quand tu pratiques, tu reconnais assez fidèlement comment se placer, etc.
Ils ont vraiment pris des styles de combat, etc. C'est pas des trucs tiens, si on faisait ça, ça a l'air pas mal.
Voilà, donc il y a, mais par contre ce qui manque, c'est, enfin moi je m'attendrais, ce que j'aurais bien aimé dans le jeu, c'est d'avoir du kung-fu. Et alors que finalement c'est pas, vous allez trouver plus un combat de rue ou bien du MMA. Donc un combat assez des coups assez brutaux. Mais franchement, le combat, c'est vraiment le gros point fort du jeu. Ils sont assez jouissifs. Moi, j'ai vraiment pris un gros plaisir. D'ailleurs, dès que je voyais des mecs dans la rue, je voyais un point rouge qui était des mecs d'un autre gang, etc. Je descendais la voiture et j'allais leur planquer une raclée dès que je pouvais, parce que ça me faisait vraiment kiffer, quoi.
Et j'ai envie de dire, pour moi, c'est vraiment le gros plus du jeu par rapport à un GTA, par exemple. C'est vraiment ce système de combat, franchement, qui te fait passer la pilule par rapport aux séances de flingues qui, pour le coup, sont j'irai pas jusqu'à dire super classique, mais parce qu'il y a quelques petites idées qui sont sympas, mais qui sont pas extraordinaires non plus, quoi.
Déjà dans le jeu, t'as pas beaucoup de missions où tu utilises le flingue. La plupart arrivent vraiment sur la fin du jeu. On comprend pourquoi quand on voit que même si tu retrouves l'étendard actuel de se cacher derrière l'élément du décor, etc. Mais la visée est assez imprécise, ce que j'ai trouvé qu'elle était pas très bonne. Il visait bien l'ennemi, mais la caméra elle bougeait un petit peu trop dans ces phases de TPS, en fait.
Ok. Mais moi, ce que j'ai trouvé très sympa par rapport aux phases de TPS, par contre, c'est ils ont une idée qui, je trouve, permet d'avoir des phases de TPS beaucoup plus dynamiques qu'un GTA, par exemple. C'est le ralentissement.
Quand tu tires un ennemi dans la tête et tout ça, t'as le ralentissement qui se prolonge. Et si t'arrives à combiner ce combo-là, c'est vrai que c'est assez sympa. La conduite, totalement arcade, assumée jusqu'au bout, parce que dans le jeu, on vous arrête pas les voitures saponneuses comme tu n'aimes pas dans la série des Grand Theft Auto.
Ouais, alors là, qu'on soit clair, c'est soit on aime, soit on aime pas. Moi, j'adore. Moi, la conduite arcade, j'adore ça. Les savonnettes dans GTA, je ne supporte pas ça. Je supporte d'autant moins ça que je suis désolé, ce n'est pas du tout réaliste. J'ai mon permis de conduire, je sais comment ça se conduit une bagnole. Ce n'est pas des savonnettes, les voitures, je suis désolé. Et enfin, moi, les savonnettes dans GTA, ça m'a toujours insupporté. Donc, je préfère comme ça, mais je sais très bien, enfin... Pour avoir débattu sur des forums à ce sujet-là, c'est vraiment une question de point de vue, quand même.
Et donc la conduite dans Sleeping Dog, franchement, super. vous conduisez comme un bourrin, vous faites à peu près ce que vous voulez. Mais la conduite arcade dans le jeu, j'ai envie de dire, elle est justifiée parce que vous pouvez sauter d'une voiture à l'autre. Le but du jeu, c'est d'en mettre plein la gueule lors de ces phases-là. Et quand tu sautes d'une voiture à l'autre pour piquer la voiture d'un mec en pleine course, c'est vraiment super. T'as un petit sourire quoi quand tu fais ça, tu vois.
Ouais, parce que franchement, s'il y avait eu des sabonnettes comme dans GTA, je sais pas si t'imagines, putain, pour sauter d'une voiture à l'autre, ça aurait été compliqué. Hein,
voilà. Et donc les phases de conduite sont assez grand public parce que tu viens, tu prends les flingues, tu tires sur les voitures, tu tires dans les pneus, la voiture a monte en l'air, elle explose en pleine course. Toi t'es là, tu continues ta course, tu pilotes et en même temps tu changes de bagnole pour en avoir une plus rapide. Et tu continues en même temps à shooter les ennemis, ça explose de partout, tu peux faire des dérapages à 190 degrés normal, tant qu'il n'y a pas de voiture devant toi, tu vas pouvoir prendre un virage à fond, les ballons, sans problème. Et franchement, moi j'ai plutôt bien aimé cette partie dans l'aspect du jeu. Et après donc, pour revenir, moi je le considère vraiment pas comme un GTA-like, je le considère plutôt entre un mix entre Yakuza et GTA, c'est-à-dire, parce que la carte elle est assez petite finalement. Et
bah, elle est pas mal quand même, faut pas.
Non, franchement,
franchement, elle est assez grande, quoi.
Moi, franchement, je l'ai trouvée vraiment assez petite, mais elle est très, très, super, super détaillée. Il y a une ambiance. Vous allez voir des gens qui vont commencer à danser, déclencher un petit feu d'artifice comme les fêtes chinoises. Ça va commencer à exploser. Il y a l'animation.
Même il y a des détails dans les décors aussi qui sont, c'est super beau, quoi.
Après, ce qu'on pourrait reprocher par rapport à, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de piétons par rapport à Hong Kong où c'est bondé. Les déplacements à pied sont assez jouissifs. Mmh. Le personnage n'est pas lourd du tout. On peut faire à peu près on sait ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. Après, il y a dans le jeu où on a aussi beaucoup d'à côté, mais qui sont pas finalement très utiles comme les combats de coq. Moi, franchement, les à côté où j'ai plus passé de temps, c'est les combats de rue. Évidemment.
Mmh, pareil.
Après, voilà. Donc, on a le Mahjong Poker qu'on va y jouer deux, trois fois. Ça va être sympa. C'est pas le truc qui va rallonger la durée de vie. D'ailleurs, la durée de vie est assez faible quand même.
Moi, j'ai un autre reproche à faire par rapport à un GTA, par exemple, c'est que je trouve les flics dans le jeu, ils sont pas bien persistants. Hein. Franchement, GTA, je me rappelle des courses-poursuites de gros tarés. Bon, tu me diras, c'est peut-être à cause de la conduite qui est tellement pourrie dans GTA que j'écrasais tout le monde sans faire exprès. Je trouve vraiment que semi des flics dans Sleeping Dogs, c'est super facile.
Surtout que dans Sleeping Dogs, avec la voiture, tu peux leur rentrer dedans, en fait. Mm. Tu peux leur mettre un coup de volant qui les propulse à 2 km, qui les fait exploser contre les bâtiments. Tu peux t'en débarrasser assez facilement. Après, comme les défauts, c'est graphiquement aussi, il est pas super super beau par rapport au jeu actuel, mais il y a des effets, certains effets météorologiques comme la pluie par exemple sur les vêtements, de ça je trouve qu'elle est plutôt bien faite. On sait que le jeu n'est pas, par rapport à un GTA, ça c'est pas le même budget, c'est pas du tout la même chose.
Mais franchement, même s'il y a pas le même budget, je trouve que voilà quoi, il se défend quand même bien par rapport à GTA 4.
Ouais, franchement, oui.
C'est pas non plus choquant quoi, je veux dire, franchement, il est très joli, hein,
Et après la durée de vie, c'est, vous en aurez 20 heures pour faire à peu près toutes les quêtes avec les quêtes secondaires avec la mission principale, et à peu près 25 heures pour avoir le platine, ce qui m'a fallu à peu près. C'est assez court quand même. Moi j'aurais bien voulu en voir plus de ce jeu parce que j'ai vraiment été pris par les combats, et franchement c'est un des gros points forts du jeu qui il me manquait un jeu comme ça, et grâce à Sleeping Dog, j'ai eu ce petit jeu qui me faisait. C'est pas un jeu sur lequel on des fois je lance le jeu juste pour les mettre 3-4 tatanes à un mec dans la rue et c'est bon quoi.
Ouais. Et alors qu'on soit clair, hein, mais vraiment, autant le jeu a une ambiance chouette, autant le scénar, je veux dire, le méchant, il y a marqué méchant sur son visage la première fois que tu le vois, tu sais, ça c'est toi le méchant. En fait. Dès que tu le vois, tu sais que c'est lui. Tu connais pas la fin du jeu, mais tu sais que c'est lui en fait. Et c'est clairement. Ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est que c'est clairement pas l'écriture d'un GTA, c'est pas The Ballad of Gay Tony, quoi. Enfin, même si pour moi, qu'on soit clair, autant pour moi, GTA 4, de base, j'ai trouvé pas génial, mais les extensions, The Ballad of Gay Tony et l'autre dont j'ai totalement oublié le nom avec les bikers, là...
The Lost and Damned.
Ouais, voilà. Et franchement, les extensions, elles étaient géniales, c'est clairement pas du niveau d'écriture d'extension de GTA... Mais par contre, il y a une ambiance, quoi. Tu sens que t'es à Hong Kong, quoi. Il y a un truc.
T'as une ambiance et surtout, comme dans The Ballad of Gay Tony, t'as du fun dans l'émission. Mm. Moi, c'est plus pour ça que je retiendrai le jeu. C'est vraiment le fun que j'ai eu manette en main. Le temps est passé à une vitesse. Quand, je voyais pas le temps quand je jouais à ce jeu parce que voilà, j'étais tellement pris par les maths des rousses aux gens que voilà, j'ai vraiment apprécié ce jeu. Donc, pour faire clair, si vous aimez bien les jeux où vous pouvez foutre sur la gueule aux gens sans vous soucier de quelque chose de, sans vous soucier de ce qu'il y a autour, le scénario, etc., vous allez vraiment vous amuser. C'est un bon petit jeu que vous allez faire comme ça. Et c'est une assez bonne alternative à GTA et à son concurrent en open world. Après, ce qui serait bien, c'est s'ils arrivent à nous faire une suite, vraiment qu'ils rehaussent un peu le niveau de durée de vie et ça, et qu'ils mettent des graphismes un peu plus beaux.
Et aussi qu'ils exploitent plus le système de. Alors, est-ce que j'aide plus les gangsters ou est-ce que j'aide plus les flics? Parce que j'ai trouvé que c'était vraiment sous-exploité dans le jeu, quoi.
Ouais, c'est vrai par rapport au scénario. On aurait bien voulu avoir un système de choix, mais finalement non. C'est le choix est linéaire et vous suivrez le scénario tel qu'il a été choisi par les développeurs du jeu pour vous. Donc c'est comme si le scénario, c'est comme si en fait vous allez suivre celui d'un film.
Ouais, qu'ils aboutissent le système de moralité, quoi. Parce que franchement, moi c'est un truc où j'attendais le jeu et j'ai vraiment été assez déçu à ce niveau-là, quoi. En fait, que tu penches du côté des gangsters ou que tu penches du côté des flics, finalement, ça change pas grand-chose, quoi. Par contre, bravo pour le système de compétences, mais justement, je pense que ça apporterait plus au système de compétences qu'il y ait des vrais choix à faire. Parce que finalement, au final, les compétences, que ce soit du côté flic ou du côté bad guy, tu peux à peu près toutes les débloquer, il n'y a pas tellement de limites. Et le fait d'avoir des choix cornéliens à faire, je pense que en plus ça aurait une influence sur les compétences, quoi.
Donc voilà, pour finir ce test, vous l'avez compris, c'est un très bon petit jeu avec pas mal de petits défauts, mais ils sont pas vraiment gênants dans le jeu parce que vous allez prendre du plaisir à jouer et c'est vraiment ça le plus important que j'ai retenu dans le jeu. Il y a des petits défauts à régler par-ci par-là, mais c'est vraiment un excellent jeu que je vous conseille si vous voulez passer du bon temps manette en main.
Ok, bon, on va passer vite fait au point culture, hein, parce qu'on a explosé les 1 heure, là. Cette semaine, je vais vous parler d'un manga, signé par un auteur, c'est sa première œuvre, et cet auteur, c'est Isayama Hajime, et le manga s'appelle Shingeki no Kyojin.
Alors, de quoi ça nous parle, ce délicieux manga que tu vas nous raconter?
Alors en fait, Shingeki no Kyojin, c'est un espèce de mix entre du post-apocalyptique, de la fantasy et du steampunk. Alors comme ça, ça fait un mélange qui a l'air un peu bizarre, mais vous allez voir, c'est très intéressant. Alors en fait, ça se passe dans un monde où l'humanité a pratiquement été exterminée. Ce qui s'est passé, c'est qu'un bon jour, il y a des géants qui sont apparus sur Terre. Et ces géants, en grosso modo, bouffer les humains, quoi. On va dire ça comme ça. Le truc, c'est que finalement, l'humanité a réussi à se réfugier derrière les remparts d'une cité, des remparts immenses qui permettaient de se mettre à l'abri des plus grands géants qui existaient sur Terre. Et comme ça, les quelques milliers d'humains qui ont survécu ont vécu une centaine d'années en paix derrière ces remparts. Le truc, c'est que, au bout d'une centaine d'années de paix, les gens sont un peu rouillés, quoi. Ils ont jamais vraiment cherché à savoir d'où venaient les géants. Ils étaient bien tranquilles chez eux, tu vois, et ils étaient pas préparés, qu'un jour, un géant arrive et explose leur mur, quoi. Et c'est exactement ce qui s'est passé.
Ah, ok.
Voilà. Et, parce que un beau jour, y a un géant absolument immense, encore plus immense que tous les géants qu'ils avaient jamais vus, qui arrivait, qui a pété la première muraille. Il faut savoir qu'en fait la cité est divisée en plusieurs cercles intérieurs, et chaque cercle il y a un mur. Ils ont perdu une partie de la cité, et c'est là que le manga commence, donc, avec nos deux héros, à savoir Hélène et Mikasa. Et ces deux héros-là, donc, qui ont perdu leurs parents ce jour-là,
Pas comme par hasard.
Quoi?
Tu vois, comme par hasard,
Ouais,
et comme
bah.
dans tous les JRPG et tout ça, t'as toujours des héros sans parents, tout ça, c'est des adolescents, et tu vois, ils ont tous perdu leurs parents, les pauvres.
Et ouais, mais en même temps, enfin, disons que ils sont pas les seuls, quoi. C'est pratiquement tout le monde est mort, en fait. Hein, Et le truc, c'est que bon, donc ces deux héros-là vont s'engager dans l'armée. Et en fait, c'est une armée assez spéciale, en fait. Tu vois le grappin de Batman?
Ouais.
Bah c'est ça, en fait. Enfin, c'est une espèce, sauf que là, en fait, c'est fixé à une espèce de ceinture, tu vois. Ils ont des espèces de cartouches, tu vois. C'est pour ça que je dis, il y a un côté steampunk dedans, qui permettent de charger le grappin, en fait. Et ça permet d'actionner le grappin et tout, le système de poulie du grappin. Et en fait, ces unités-là, avec leurs grappins, elles sont chargées de combattre les géants. Parce qu'il faut savoir que les géants, ils ont une seule faiblesse, c'est une toute petite zone derrière leur cou. Et en fait, l'idée, c'est que, voilà, tu dois distraire le géant, et il y en a un qui arrive derrière, et clac, il enfonce un truc dans le cou du géant, et le géant disparaît, en fait.
Mais comment ça, il enfonce un coup dans le truc du géant, et le géant, il est grand, donc comment
Oui,
il va
mais
faire pour...
justement, d'où l'idée du grappin. C'est en fait, tu utilises l'environnement. Voilà, tu hop, oh tiens, il y a une tour, tu vois, je vais prendre la tour, hop, je vais faire un tour, je vais utiliser la tour pour arriver derrière le géant et lui enfoncer genre une épée par exemple dans son épiderme, tu vois.
Et l'armée, ils ont que des grappins, ils n'ont pas de flingues, non?
Non, parce que c'est de la fantaisie, en fait, si tu veux, c'est de la, comme je disais, c'est un peu de la fantaisie.
Ouais.
Il n'y a pas de, enfin, il n'y a pas de flingue ou de, enfin, même de toute façon, s'il y a des canons. Mais les canons, en fait, le problème, c'est que les géants, ils ont une capacité de se régénérer, en fait. Et ils se régénèrent assez vite. Et le seul point faible qu'ils ont, vraiment, si tu veux les tuer, c'est de les frapper précisément à cette zone-là dans l'épiderme.
Et donc
Sinon, ils disparaissent pas.
il y a pas de vaisseau, etc., quoi,
Non,
dans
non,
le
non.
quotidien.
C'est de la fantasy, c'est médiéval, enfin. C'est vraiment, il n'y a pas une technologie très avancée, quoi.
Ok.
Quand je dis c'est steampunk, je dis vraiment ça par rapport au système de grappin, ou avec les espèces de cartouches, c'est juste par rapport à ça. Hein. Ils ont vraiment pas une techno super avancée. Les mecs, ils se déplacent avec des canassons, ils ont des grosses murailles en pierre, et puis c'est tout, quoi. C'est vraiment pas du tout avancé. Tu sais pas quel était l'état de la technologie avant que l'humanité disparaisse, mais en tout cas là ils sont au Moyen Âge. Hein. Ils sont en fin de Moyen Âge, ils ont des canons et puis c'est tout quoi. Alors donc ils vont s'engager dans l'armée. Il faut savoir que en plus il y a une unité dans l'armée qui est à peu près la seule unité qui est chargée d'explorer le monde extérieur. Et en fait il faut savoir que le héros il rêve de s'engager dans cette unité-là et que vous imaginez bien que il va y finir un moment ou un autre. Sachant que cette unité à la base elle était assez méprisée parce que les gens disaient en gros ouais à quoi ça sert qu'on envoie nos enfants là-dedans? On n'a jamais rien appris sur les géants à cause de ça. Il y a pratiquement personne qui revient parce que le taux de mort est en gros il est de 70% quoi. Les mecs qui partent à 100 ils reviennent à 30 quoi. Donc à quoi bon? En plus on est très en sécurité derrière le mur. Donc au départ c'était ça. Vous imaginez bien que depuis que le mur a été détruit, cette unité, ben, elle a pris un peu plus d'importance parce que, vu comment ils sont dans la merde, certes, il y a encore des murs derrière qui résistent, mais il va falloir apprendre des choses sur les géants parce que sinon, ils vont se faire massacrer, quoi. Alors, moi, ce que je trouve génial dans cette série, pour passer au cœur de la critique, c'est que, moi, vous savez déjà, j'adore le côté post-apo, parce qu'en général, dans le post-apo, ce qui ressort, c'est la nature profonde des humains, quoi. Naturellement, tu vois, quand t'es sur le point de disparaître, il y a toujours des conflits qui vont émerger. C'est vraiment le cœur de ce manga, c'est que il y a différents points de vue qui s'affrontent, et même si tu sens que les explorateurs, ceux qui veulent se renseigner sur les géants, n'ont foncièrement pas tort. C'est à un moment donné, s'ils veulent avoir une chance de survie, je veux dire, quand un géant qui de toute façon à tout moment peut péter tes murs, voilà quoi. Il faut que tu fasses quelque chose. Tu vas pas rester là à attendre qu'on vienne te buter quoi. Mais d'un autre côté, tu comprends la réaction des gens qui en face. C'est juste que la situation est tellement désespérée. Que ben tu comprends que les gens aient baissé les bras quoi. Et Franchement, c'est ce que j'adore cet univers. Il y a une espèce d'ambiance sombre permanente qui est là. Tu sens qu'à n'importe quel moment, il y a n'importe quel personnage qui peut crever. D'ailleurs, l'auteur n'hésite pas à faire crever certains persos. Et franchement, c'est très très bien, quoi.
Est-ce que tu trouves que les personnages, tout ça, sont un peu clichés ou pas, tu vois, contre, parce que dans la culture japonaise, il y a beaucoup de quand même d'assez de clichés par rapport aux personnages dans certains trucs, je parle.
Pas et du là, tout.
Pas du tout.
Pas du tout. Par exemple, le personnage féminin du manga, c'est clairement, même si c'est pas l'héroïne principale, c'est clairement le personnage fort de la série pour moi. Même si, bon, le héros, il a ses qualités à lui, pour moi, elle le domine sur tous les points, quoi. Elle est forte mentalement, c'est un vrai génie, c'est pas le personnage qui est là pour faire du fan service, hop, un bout de sein, tu vois, et même en général, tu vois, c'est pas du tout un manga où dès qu'il y a un personnage féminin, on va avoir un plan sur le décolleté, c'est pas du tout, hein. C'est pas du tout ça, mais clairement pas. C'est un manga sombre où chaque personnage a sa place, quoi. Bon, peut-être au niveau du héros, il y a peut-être certains clichés.
Au niveau
du héros, il y a ouais. Des clichés, peut-être, voilà, c'est le mec qui a peur de rien, tu vois. Bon, enfin, ça c'est au début, hein, mais... Je trouve vraiment que l'auteur a de très bonnes idées, son univers est très original. Franchement, c'est très sympa. Mais bon, par contre, il y a un twist scénaristique qui m'a un peu déçu, on va dire. Mais, enfin, vous comprendrez quand vous le direz. Mais à part ça, je trouve que, bon, c'est... L'auteur c'est assez bien géré ses personnages secondaires, même si je trouve qu'il y en a un peu trop et que du coup ça dilue un peu l'intrigue. Et aussi un petit reproche, c'est que même si les personnages secondaires sont sympas, je trouve qu'ils ont moins de personnalité que les deux personnages principaux.
Et par rapport à l'histoire, est-ce que tu trouves que l'intrigue se déroule plutôt bien? On apprend des choses sur notamment sur les gérants, etc. Ou bien est-ce qu'elle est longue et des fois ça blablate pour des fois dire pas grand chose et que finalement le scénario et tout ce qui s'ensuit avec la trame principale, ça veut dire que ça met du temps à démarrer et que voilà, donc on tourne toujours au niveau du même point, on essaie de découvrir mais finalement on n'apprend pas beaucoup de choses sur les gérants.
Alors précision déjà, pour le moment le manga on est à 8 volumes, il n'est pas terminé. Ensuite, moi je trouve que la narration est assez bien maîtrisée. Même si pour le moment, à mon goût, on n'a pas appris énormément de choses avec les géants, je trouve que l'auteur distille bien les éléments de son intrigue, en fait. Le truc, c'est que pour le moment, on n'en est pas encore à l'heure des révélations, même si on a appris certaines choses. Pour le moment, on a beaucoup plus de questions que de réponses. En même temps, 8 volumes, on est d'accord, c'est pas beaucoup pour un manga. Il faudra voir comment ça va se développer. Soit ce sera absolument génial, soit ce sera une vraie déception, parce que vraiment il y a beaucoup beaucoup de questions là qui sont distillées par l'intrigue du manga. Mais en tout cas, pour le moment, ce que je peux dire sur l'intrigue, c'est que l'auteur sait mener sa barque et il sait mener son scénar de manière à ce qu'on s'emmerde pas en 8 volumes, quoi. Il introduit toujours de nouveaux éléments, etc., de l'univers. C'est vraiment un univers que tu sens que l'auteur a travaillé et c'est un plaisir de le découvrir.
Tu as autre chose à ajouter par rapport à ce manga?
Pas grand chose, si ce n'est que le dessin est vraiment superbe, c'est très détaillé. Bon, d'un côté, le revers de la médaille, c'est que du coup, l'apparition de ce manga, enfin, des chapitres de ce manga, elle est mensuelle. Donc ça veut dire pour faire un volume, il faut un certain temps, quoi. Parce qu'un chapitre, je rappelle, c'est une trentaine de pages. Du coup, il va falloir un certain temps avant que le manga se finisse. Donc, mon souhait vraiment, c'est que j'espère que le manga va pas s'éterniser, qu'on va pas se retrouver avec 30 volumes. Moi, j'espère que ça sera plutôt un manga plutôt court. À voir, mais en tout cas, c'est à mon avis, c'est une œuvre à suivre. D'autant plus que, franchement. L'intrigue est vraiment intéressante, l'univers est original. Il faut savoir que c'est un des mangas qui a le plus marché quand il est sorti. Là, il est sorti en 2009, il a vraiment très bien marché. C'est d'ailleurs une surprise, un manga assez original comme ça. C'est pas une habitude hein, que ça marche comme ça au Japon, mais ça a vraiment bien marché. Bref, c'est un manga adulte avec des thèmes adultes et clairement c'est pas pour les enfants. Hein, y a du gore dedans, mais dans tout le cas c'est très intéressant. Voilà. Donc c'est fini pour cette semaine.
Attends, avant de partir. Comme on a fait un autre jeu du moment sur Sleeping Dog, le jeu donc dont tout le monde a été inspiré était bien sûr Grand Theft Auto, et cette série bien sûr fête ses 15 ans cette année. Donc nous souhaitons une bonne anniversaire à Rockstar et nous souhaitons un très 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 bon GTA V.
Voilà. Bon allez, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao.
Salut à tous.